une bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Le texte que va lire Daniel tout à l'heure est très long aujourd'hui, c'est pour ça que mon introduction sera courte, mais il s'agit bien, dans l'épisode précédent, de cette marche absolument sans épreuve et sans doute de l'avancée de Paul vers les pays dits européens. Écoutons vite Daniel.
Déchu politiquement, Athènes restait comme centre universitaire le modèle de la culture hellénistique. Elle serait le théâtre de la première rencontre entre la bonne nouvelle et la haute pensée païenne. Tandis qu'il attendait ses compagnons, Paul avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il continuait de s'adresser dans la synagogue aux Juifs et aux craignants Dieu, mais aussi à tout venant chaque jour sur la place publique. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui débattaient avec lui. C'étaient les écoles philosophiques les plus répandues. Elles différaient profondément, mais la nouvelle foi, tout en étant favorisée par certains de ses aspects, allait se heurter à ce qui leur était commun. Refus d'un Dieu personnel absolument distinct de l'univers, avec toutes ses conséquences pour les réalités spirituelles. On entendait. Que signifie cette jacasse? Ce doit être un prédicateur de divinités étrangères. Paul était en train d'annoncer Jésus et la résurrection qu'il prenait pour une nouvelle divinité associée à Jésus. L'idée d'une résurrection corporelle étant étrangère à la pensée hellénistique. On mit de nouveau la main sur Paul pour le conduire devant l'Aréopage. C'est une colline à l'ouest de l'Acropole, où siégeait un conseil dont les attributions étaient à cette époque surtout religieuses et universitaires. Ces magistrats, sans intenter de procès, voulaient s'informer de cette doctrine inconnue et de ses conséquences. Pourrais-tu t'expliquer? Tu nous rebats les oreilles de propos étranges et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. On doit savoir que tous les habitants d'Athènes et tous ceux qui y résidaient passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Debout, devant l'éminent conseil, Paul prit la parole. « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues et que mon regard se porte sur vos monuments sacrés, je découvre entre autres un autel avec cette inscription « au Dieu inconnu. Celui que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est lui que je viens vous annoncer, le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas des temples construits par la main des hommes. » Le thème était cher aux stoïciens. « Son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. » À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini les saisons et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'il cherche Dieu. Peut-être le découvrirait-il en tâtonnant, lui qui en réalité est si proche de chacun de nous. C'est en lui, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Les platoniciens devaient boire du petit lait. Comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Ô Épiménide, ô Aratos. Alors, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que le divin ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par un homme, Jésus, qu'il a désigné par une garantie valable pour tous, la résurrection d'entre les morts. Au mot de résurrection des morts, on se moqua. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est ainsi qu'on se quitta. L'hellénisme devant résister encore longtemps à la bonne nouvelle. Certains pourtant s'étaient attachés à Paul et embrassèrent la nouvelle foi. Parmi eux, Denis, membre de l'Aréopage, une femme du nom de Damaris et quelques autres. Paul se rendit à Corinthe. C'était une colonie romaine fondée par Jules César lui-même, chef-lieu de la province d'Achaïe, centre commercial important doté de deux ports, un de chaque côté de l'isthme. La population en était cosmopolite, et le culte d'Aphrodite lui donnait mauvaise réputation. Paul y rencontra un juif nommé Aquilas, originaire du pont, Bosphore, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. L'empereur Claude avait en effet décrété que tous les Juifs devaient quitter Rome. Paul entra en relation avec eux, et comme il avait le même métier, c'était des fabricants de tentes, il s'installa chez eux pour y travailler. Tous les rabbins pratiquaient un métier manuel. Pour Paul, nous savons déjà, c'était un moyen de ne pas être à charge et de proclamer gratuitement la bonne nouvelle. Chaque sabbat, il prenait la parole à la synagogue et tâchait de convaincre tout le monde, Juifs et Grecs. Mais lorsque Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant devant les Juifs que le Messie, c'est Jésus. Et devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements en signe de rupture et leur déclara définitivement « Que votre sang vous retombe sur la tête, cela ne relève plus de moi. Désormais, c'est aux païens que j'irai. » Il sortit et emménagea aussitôt chez un certain Titus Justus, un craignant Dieu dont la maison était contiguë à la synagogue. Le chef de la synagogue, pourtant du nom de Crispus, embrassa la foi nouvelle avec toute sa maison, ainsi que beaucoup de Corinthiens qui avaient entendu Paul. Une nuit, le Seigneur vint rendre visite à Paul dans une vision. « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas. Je suis avec toi, personne ne te maltraitera, car ici, beaucoup sont pour moi. » Paul resta à Corinthe un an et demi à enseigner la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion, en Achaïe, l'hostilité des Juifs devint unanime à l'égard de Paul. C'est au début des années 50. Ils réussirent à le traduire en justice. « C'est un culte illégal de Dieu, soutenait-il, que cet individu veut amener les gens. » L'accusation était intéressante. En effet, la loi et la religion juive étaient reconnues par la loi romaine. Pour accuser Paul d'introduire dans l'Empire une religion nouvelle, les adversaires juifs avaient dû présenter la foi nouvelle comme différente du judaïsme, ce qui, je le répète, n'était pas si mal vu. Paul allait prendre la parole quand Gallion répondit aux Juifs. S'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait éhonté, je recevrais votre plainte, comme de raison. Mais puisque vos querelles concernent des mots, des noms, et la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Je ne veux pas, moi, être juge en pareille matière. Et il fit évacuer. Nous voyons que Gallion, lui, considère la foi nouvelle comme une affaire qui relève de la communauté juive et de sa loi. C'est une variété de judaïsme qui bénéficie de la même reconnaissance légale que ce dernier, et ne concerne donc pas la justice romaine. Des énergumènes, des juifs, des grecs, se ruèrent sur le pauvre Sosthène, chef de la synagogue, et le rouèrent de coups devant le tribunal. Mais Gallion, encore une fois, ne se mêla absolument pas de cette affaire. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, où on ne s'ennuyait pas. Puis il prit congé des frères et s'embarquant pour la Syrie en compagnie de Priscille et d'Aquilas. À la suite d'un vœu personnel, il s'était fait tondre la tête à Sancrée, le port de Corinthe sur la mer Égée. La petite équipe gagna Éphèse, où Paul se sépara de ses compagnons. Il se rendit, pour sa part, à la synagogue et y adressa la parole aux Juifs. Chassé le naturel. Comme il lui demandait de prolonger son séjour, il refusa, mais les quitta avec cette promesse. « Je reviendrai chez vous une autre fois, si Dieu veut. » Il prit la mer à Éphèse et débarqua à Césarée pour monter discrètement saluer l'église de Jérusalem.
Là, deux points, vous ne vous en pas, comment manquer, vous n'avez pas manqué de les remarquer. La première, le premier point, c'est cette rencontre entre la foi chrétienne naissante et la philosophie grecque à partir de la résurrection des morts. Et la seconde, c'est la distinction, grâce à Gallion, de la différence entre la foi juive et puis la foi chrétienne. Mais nous y reviendrons au début de notre prochain enregistrement.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.